Bonsoir à tous, bienvenue. Merci de votre présence à nos côtés pour ce nouveau café débat des Lyonnes. Alors ce soir, on va parler de prendre soin, de solidarité, de s'occuper des autres. Et avant de commencer de vous présenter les invités, je vais demander à Catherine Sirvin du Life Hub de Bayard de bien vouloir venir à mes côtés, m'accompagner. Comment prendre soin dans une société qui va si vite? Où il y a beaucoup d'injonctions, on a des injonctions, pardon, je suis devant vous, on a des injonctions permanentes au bonheur, à la perfection, à la vie qui doit être comme ci, comme ça, donc il y a quand même beaucoup de choses. Et comment on fait pour s'en sortir dans cette ambiance et cette société? Catherine, ce soir, vous nous accueillez, vous nous accueillez, Life Hub de Bayer, avec Philippe Mérès qui est caché derrière les manettes. Voilà, Philippe, c'est pas son métier à la base, il a un vrai travail, mais en plus, il fait régisseur pour le Café Débat des Lyonnes. Catherine Sirvin, toi, tu es responsable de la transformation digitale au sein de Bayer. Et donc, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu pourquoi tu nous accueilles dans ce lieu absolument somptueux du Life Hub?
Bah déjà, des soirées comme ça, elles permettent de faire attention aux personnes. Donc, je suis ravie qu'on vous accueille ce soir et sur cette thématique en particulier. Pour l'entreprise, pour Bayer, en tout cas, le CARE, on connaît. Parce que notre devise, c'est « Health for all, hunger for none ». Donc, je traduis, c'est la santé pour tous et que personne n'ait faim dans le monde. Donc vraiment, c'est super important pour nous. Bayer, vous ne connaissez peut-être pas, mais c'est les trois piliers. La pharma, on est plutôt spécialisé en cancéro, ophtalmo, gynéco. Donc, par exemple, Mirena, ou des choses comme ça, c'est Bayer. Les produits sans ordonnance, vous avez Béroca, Bépantène, dans le CARE, je crois qu'on ne fait pas mieux, si vous avez eu des bébés. Et puis nous, ici, on est sur la protection, mais le CARE sur les plantes. Donc, c'est pour nourrir la planète, en gros. Donc là, vous avez un centre de recherche avec à peu près 200 chercheurs qui se creusent la tête pour faire l'innovation du futur sur la protection des plantes, et on vous ouvrira une visite rugissante à un moment, en juin. On
a
fixé la date encore. Mais en fait, ce qui est important, c'est que ce CARE, pour nous, cette innovation, elle est drivée par Rachel Rama, qui a fait un des cafés débats. C'est le 83, si vous voulez. Je suis allée voir
juste avant.
Elle est incroyable pour nous pousser dans le mieux. Comment on fait l'innovation mieux, mais en faisant très attention aux personnes du centre de recherche aussi. Ça veut dire qu'elle a tout changé, tout chamboulé pour qu'on ait des espaces conviviaux. Elle a créé ce lieu qui est, vous l'accorderez, très convivial et qui invite au dialogue. C'est un lieu qui nous sert à la fois pour parler, dialoguer sur nos activités, comme je l'ai fait là très vite. On accueille l'innovation parce qu'on accueille des start-up. On en a une en ce moment qui est normalement dans le local là-bas. Et puis, on y vit, et on y vit bien, et on y fait des beaux événements. Et nous, on care toutes les... Je vais dire, allez, j'y vais sur les filles du centre de recherche. Par exemple, pour Octobre Rose, on a fait une activité où ça fait 3 ans que les couturières du site, elles apportent leur machine à coudre. Et on coud des cœurs pour donner, en fait, en cancérologie, pour le cancer du sein. Et cette année, on en a fait 240. Et on est sponsorisé aussi. Donc, on s'est toutes mises ensemble pour ça. Et c'est vrai qu'en fait, je me rends compte qu'à la fin du mois d'octobre, quand je compte tout mon travail d'innovation, plus ce que je fais avec les filles, on se régale. Hein. Mais il y a un moment où je fais... Waouh, il faut enchaîner sur Noël. Oui, bon, j'ai beaucoup donné. Voilà. Mais c'est pas grave, c'est très très bien. Et du coup, je suis ravie qu'on parle de ces sujets-là ensemble sur comment on voilà.
On parle de ces sujets-là ensemble parce que nous, on est très heureux de renouveler, en fait, enfin, vous nous avez renouvelé votre confiance puisque le Life Hub de Bayer est partenaire de l'équipe des Lyonnes depuis l'année dernière. On a renouvelé cet engagement cette année, donc on le concrétise avec vous ce soir. Et donc, vous êtes le lieu labellisé pour accueillir nos cafés débats toute l'année Et en plus, tu le disais tout à l'heure, on va vous proposer en 2025 une visite rugissante et on va pouvoir aller voir vos laboratoires. Vous allez nous ouvrir vos laboratoires pour aller voir exactement ce que vous faites, comment vous le faites et comment justement l'IA vous accompagne pour justement tester les plantes, tester l'alimentation de demain, comment on va nourrir
le monde. Les produits les plus sûrs qui soient pour les gens, pour la planète. On se creuse vraiment la tête pour arriver à ces solutions-là. Et vous pourrez poser vraiment toutes vos questions. On n'a pas de tabou. Voilà, on est là avec Philippe si vous en avez avant. Mais on sera ravis de vous faire découvrir aussi le dessous des cartes parce qu'on a des tas de robots, des tas de choses qui se font avec l'IA. Voilà, on en parlera peut-être.
Oui, bien sûr.
Débat.
Voilà. En tous les cas, merci beaucoup de cet engagement à nos côtés, de ce soutien et merci de nous accueillir dans ce fabuleux site. Voilà, merci Catherine, merci beaucoup. On peut peut-être applaudir Catherine. Et puis moi, je vais vous parler de nos invités de ce soir, mais d'abord, on va parler du sujet. Le sujet, c'est prendre soin. Et moi, j'ai très contente d'aborder ce sujet parce que d'abord il s'inscrit dans la tradition lyonnaise, le prendre soin des autres, et puis surtout les femmes, elles prennent constamment soin des autres. Je pense qu'on sera certaines nombreuses à se reconnaître, mais quand on parle des femmes, quand on parle des femmes qui prennent soin des autres, vous savez, je pense à toutes celles qui vont aller faire la recette de la grand-mère qui met 5 heures, 6 heures, 7 heures, parfois plus, juste pour faire plaisir à sa tablée. Je parle de celles qui vont laisser le petit mot doux sur l'oreiller le matin pour le compagnon ou la compagne. Je pense à celles qui sont jamais sur les photos parce qu'en fait elles sont tout le temps en train de les prendre les photos. Je pense aux celles qui font des couscous pour les autres, qui font à peu près des couscous pendant 48 heures. Je ne donnerai pas de nom, on a dit qu'on ne balançait pas. Je pense à celles qui offrent des fleurs pour faire plaisir. Je pense à celles qui vont décrocher leur téléphone pour aller s'enquérir de comment on va. Je parle de celles qui vont faire des kilomètres et des kilomètres en voiture parce qu'elles sentent que la personne ne va pas bien. Je parle de quoi ? Je parle de celles qui livrent à domicile un tupperware de soupe avec un petit tube de Doliprane. Voilà, celles qui vont mettre le champagne au frais pour les grandes et les petites occasions du quotidien pour faire plaisir aux autres. Voilà, celles qui organisent les réunions de famille, qui se souviennent toujours des anniversaires parce qu'on l'a noté dans notre agenda et qui font des surprises et qui vont aller faire des calendriers de l'avant. Bref, je parle des femmes. Il y a sans doute des hommes qui le font aussi, mais en tous les cas, les femmes prennent soin des autres en permanence. Et finalement, tout le monde trouve ça normal. Et donc nous, à l'équipe d'Elion, on avait envie de se dire... OK, elles font ça, mais ce serait peut-être bien qu'on les mette en valeur et qu'on prenne un peu le temps de leur rendre hommage à ces femmes qui prennent soin des autres. Alors, on aurait pu prendre, très honnêtement, plein de modèles, plein d'intervenantes, mais on a fait une petite sélection totalement subjective et totalement assumée. Et c'est celle qu'on va vous présenter ce soir, donc à mes côtés, pour illustrer cette belle thématique. Marie Cerveau, qui est... coiffeuse, visagiste, voilà, j'ai cherché le nom, mais aussi vous êtes lancée dans une nouvelle activité. Donc aujourd'hui, vous travaillez pour la marque Camille Alban, et puis vous êtes en train de monter votre activité de prothésiste capillaire, et vous allez nous expliquer, parce que vous avez mis en place un programme pour les femmes, notamment en particulier, hein, j'imagine c'est les femmes, peut-être les hommes aussi, je ne sais pas, vous nous le direz tout à l'heure, donc les femmes qui sont malades et qui perdent leurs cheveux, Marie, vous les accompagnez dans cette douloureuse étape, mais justement, vous essayez d'en faire quelque chose de profond et un accompagnement très chaleureux. Voilà. À vos côtés, vous avez Christelle Galvez. Donc, toutes ont évidemment été les invitées du Café des Lyonnes. Je ne sais pas si chacune se rappelle le numéro de ton café. Moi, je ne me le rappelle pas, mais je sais que dans la salle, généralement, il y a toujours des gens pour dire le numéro. Alors, vous êtes directrice des soins et des parcours au Centre Léon Bérard de Lyon. Et on va en parler parce que moi, j'étais très étonnée qu'on s'inquiète du parcours du soin, quoi, l'expérience usagée, et c'est un vrai parti pris, c'est quelque chose de très innovant, donc j'avais aussi envie qu'on puisse discuter de ça. Et vous êtes aussi la coprésidente de l'Association française de chirurgie ambulatoire. vous nous expliquerez ce que c'est, hein, parce qu'on est novices, nous, dans le secteur. À vos côtés, Sophie Moreau, qu'on ne présente plus, mais qui est quand même la présidente de Courir pour Elle. Je pense que tout le monde ici a déjà entendu parler de Courir pour Elle. J'espère que tout le monde a déjà fait partie d'une équipe pour la course. En tous les cas, rendez-vous en mai, tu vas nous dire tout ça. Je sais qu'on ne repartira pas sans la date, ça c'est une certitude. Et puis, à tes côtés, Sophie, Christelle Bardet, vous avez eu une aventure personnelle qui vous a conduit sur le chemin des aidants familiaux, puisque votre maman a été malade d'Alzheimer. Vous en avez écrit un livre, Quand maman plantait des brosses à dents. Et puis, plongée dans ce parcours-là, vous avez souhaité vous engager. Donc, ce n'est pas votre métier à la base, puisqu'on va en parler plus largement. Vous êtes plutôt dans la société du spectacle, dans la production, etc. Mais là, du coup, vous avez découvert un univers et vous avez eu envie de vous engager. Donc, aujourd'hui, vous organisez un gala qui a lieu d'ailleurs lundi prochain, qui est un gala au profit de la Fondation pour la recherche sur l'Alzheimer. Donc vous allez nous parler de tout ça. Voilà, on va échanger. Ce que je vous propose, c'est qu'on commence par un premier tour de table et que vous puissiez présenter un petit peu votre parcours brièvement. Vous savez, on rappelle la règle, c'est 3 minutes par personne. Je le redis, parce que des fois, je ne le dis pas. Du coup, il y en a qui s'oublient dans le truc. 3 minutes. On met pas le chrono, mais c'est un peu... presque un petit peu, je suis là pour veiller au grain. Non mais voilà, pour qu'on fasse un peu connaissance avec vous et qu'on sache un petit peu quelle fonction exacte vous avez aujourd'hui et puis quel a été votre parcours professionnel. Voilà, en quelques minutes, qu'on comprenne un peu le cheminement du parcours. Est-ce que Christelle, tu veux commencer? Voilà, je lance nous expliquer un petit peu ton parcours.
Vous m'entendez ou pas?
Oui, c'est... On t'entend très bien.
Bonsoir, je suis ravie de vous voir déjà aussi nombreux et nombreuses.
Oui, il y a des lions ce soir, on est vraiment très contente. On va dire, vraiment, nous, on aime les hommes, on est très contents qu'ils viennent à nos événements. Donc vraiment, merci de le dire, parce que du coup, on en profite pour leur souhaiter la bienvenue.
Voilà, donc moi, je m'appelle Christelle Bardet. Je suis un pur produit lyonnais de la Croix-Rousse, petite fille de Canu et fille d'imprimeur. Donc c'est compliqué de faire plus lyonnais que moi. J'ai donc passé toute mon enfance à la Croix-Rousse et j'ai changé plusieurs fois de vie. J'ai été beaucoup dans le commercial, j'ai vendu de la presse. J'ai d'anciennes collègues où on vendait de l'espace publicitaire. J'ai ensuite été déléguée médicale où je vendais de l'assistance respiratoire. Voilà, puis après j'ai eu besoin de prendre l'air. J'ai été apporteur d'affaires dans l'immobilier. Enfin, j'ai changé plusieurs fois de vie. Et en fait, là maintenant, aujourd'hui, je suis directrice de communication pour une société qui fait de la production de spectacles. Alors, on n'en produit pas 50 des spectacles parce qu'on a un seul artiste. Voilà, avec qui je suis mariée. Il a la chance d'être mariée avec moi. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, voilà, c'est Laurent Gérard qu'on ne présente plus. Voilà, donc je suis un peu un couteau suisse autour de lui parce qu'on est une toute petite équipe. On travaille un peu comme une PME familiale. Voilà, donc je m'occupe principalement de sa communication, mais aussi de tout le back-office, l'organisation, etc., etc. Et on a une petite fille de 4 ans qui m'occupe bien aussi. Donc, comme Alexandra le rappelait, en 2002, ma maman a été diagnostiquée d'une maladie d'Alzheimer précoce. Elle avait 56 ans quand elle a été diagnostiquée. Je l'ai accompagnée pendant 14 ans et j'ai donc traversé, parcouru ce long chemin qu'est celui d'un aidant, voilà, qui est semé d'embûches et aussi de bons moments. Donc, je suis au conseil d'administration aujourd'hui de France Alzheimer Rhône, où en fait on travaille, cette association représente les malades et leurs familles, on fait beaucoup d'actions envers le couple aidant-aidé. On a vraiment, vraiment les deux pendants, voilà, le malade et son entourage. Et je suis au comité d'honneur de la Fondation pour la recherche sur Alzheimer, où là on fait exclusivement de la levée de fonds pour aider la recherche. Voilà. Et donc, je fais travailler les deux conjointement pour créer l'événement dont on parlera peut-être tout à l'heure. Je vais m'arrêter parce que je dois être à 2 minutes.
Mais c'est impeccable, ça va, c'est très, très bien. Voilà. Non, c'est bien. Merci,
voilà,
Christelle.
En quelques mots.
Sophie, est-ce que tu peux nous partager ton parcours, de présenter ce que tu fais et nous expliquer...
Moi, je suis la fondatrice de Courir pour Elle. J'ai créé cette association en 2010. Mais elle était née dans mon cœur et au fond de moi en 2006. Donc 2006, bilan de compétences. Et là, je change de cap, de direction. Je lâche l'entreprise et je me dis, tu vas mettre ton énergie, puisque j'avais déjà fait environ 8 marathons. tu vas mettre ton énergie au service des autres. Donc j'avais à ce moment-là eu une envie incroyable de mettre du sens dans mon quotidien. Alors je dis ça parce qu'aujourd'hui c'est très important sens dans son quotidien et on est 15 ans plus tard. Voilà, donc j'ai créé cette association avec un petit noyau. Hein, on était, c'était très familial au départ. Mon mari, ma belle-sœur, et puis après ça a été les copines des copines, et puis les maris des copines, et puis tout d'un coup on se retourne. Le temps passe très très vite quand on est passionné, et on est en 2024, alors que la première fois on avait rassemblé 1650 femmes, on est en 2024 et on a rassemblé 15 000 dossards. Alors les dossards aujourd'hui sont mixtes, puisque ça a évolué. Donc l'objet de cette association, sa vocation c'est la lutte contre les cancers, féminin. Ça aussi, ça a évolué parce que, à force de voir beaucoup d'hommes très impliqués à nos côtés, eh bien, on a vraiment modifié. Vous allez voir que 2025 se transforme. L'idée principale, c'est deux missions, faire de la prévention avant cancer, pendant et après, pour vraiment faire en sorte d'aborder de la qualité de vie faire de la prévention primaire, secondaire et tertiaire, anticiper, ne pas parler de la maladie, mais dire, donner tous les tuyaux pour justement ne pas tomber malade. Donc on fait de la prévention auprès des jeunes, qui est une cible prioritaire chez nous, les femmes en milieu rural, les femmes en milieu vulnérable. Et puis la deuxième très belle mission, et là on est en lien avec le Centre Lambert-Eart, c'est qu'on apporte de la qualité de vie aux femmes en soins et on finance des programmes d'activité physique adaptée. Donc on fait du sport pour celles qui sont sans maladie. Et puis on fait de l'activité physique adaptée, c'est juste avant, pour les personnes qui sont en soins. Et là, bien sûr, vous avez entendu parler de danser pour elles, rando pour elles, nager pour elles, tennis pour elles, puisque l'idée principale de ce point-là, qu'importe en fait l'activité choisie, l'important c'est de mettre des baskets, faire de l'activité physique et être en mouvement. D'où... Vous avez vu ce marque-page qui est vraiment nouveau. Hein, vous faites partie des premières personnes à le voir. On marque dessus tout au long de l'année, je bouge pour ma santé. Et voilà, peu importe, encore une fois, l'activité choisie. L'idée, c'est d'être en mouvement et puis de fuir la sédentarité. Puisque je suis convaincue
En fait, tu as vraiment créé, en fait, dans le parcours, tu as créé de toutes pièces une association qui a grossi. Et en fait, au départ, tu es partie d'une marche ou d'une course. Et puis aujourd'hui, en fait, c'est multi-activité. Il y a de l'événementiel dans l'année, il y a des dispositifs d'accompagnement des femmes qui sont atteintes de cancer. Enfin, voilà, en fait, tu as monté toute une galaxie autour de ce sujet.
Je dirais que les événements sont des occasions de se rencontrer, de rassembler, puisque 15 000 personnes, c'est beaucoup. C'est des moments très importants pour transmettre des grands messages d'intérêt général. Et par les bénéfices qu'on récolte sur ces grands rassemblements, puisqu'on vend des dossards, eh bien, on va soutenir les centres hospitaliers, ouais, comme le Centre Lambert-Eart, les hospices civils de Lyon et le Médipol. Et puis après, d'autres associations. Dans tous les cas, l'idée, c'est d'apporter de la qualité de vie et donc un autre soin qui n'est pas un soin médical mais un soin soigné, voilà, accompagné, chouchouté les personnes en soins en faisant de l'activité physique adaptée.
Ok, super, merci Sophie. Regarde, Christelle, il y a tout ce qu'il faut, voilà. Christelle Galvez, alors on va se tutoyer parce qu'on peut faire comme si on se voyait. Donc, directrice des soins et des parcours au Centre Léon Bérard. Mais alors, c'est une toute nouvelle approche, ça. Non, peut-être alors, pas
pour, oui, sur, en fait, j'ai inventé mon métier. Donc, j'ai inventé même son titre. C'était pas ça pourquoi on m'avait... Enfin, dans les hôpitaux, on a forcément ce métier qui est un peu la chef supérieure des infirmières. Ça, on voit souvent. Et puis... c'est marrant parce que dans la salle, il y a quelqu'un qui fait partie de ceux qui m'ont recruté à l'époque. Donc c'est drôle, maintenant, à l'époque, ils m'avaient recruté. Et donc, j'étais censée être directrice des soins. Et voilà. Et en fait, forcément, j'ai été, du fait de mon métier, moi, j'étais soignante à la base. J'étais soignante, puis après infirmière. Et
j'avais tout un parcours. Hein.
Ouais, effectivement, j'ai grandi dans mon métier par l'envie de vraiment être au cœur du réacteur, de l'hôpital. Je me sens chez moi à l'hôpital, et parce que j'aime profondément les soignants et les patients et leurs familles, et je me sens faire partie d'eux. Et donc, faire partie, faire équipe. Et pour ça, il fallait que je sois à l'endroit où j'avais envie, enfin, là où je me sentais le plus utile. Et donc, d'être soignante et infirmière. Et pour finir, pour faire rapidement, je suis devenue manager un peu parce que j'étais plus très à l'aise dans les soins. J'avais fait une erreur, en fait, à un moment donné dans ma vie avec un patient. J'avais injecté un mauvais médicament. Et ça m'avait vraiment percutée, parce que moi qui me croyais une super puissante, bah, à ce moment-là, je ne l'étais plus du tout. Et je me suis retrouvée un peu pas forcément écoutée dans ce moment de faiblesse ou de vulnérabilité. Et j'ai un peu fui le soin en direct. Et donc, je me suis dit, mais comment continuer à soigner ? Eh bien, en étant manager des soignants et soignant les soignants et accompagnant et prenant soin. Et peut-être que ça déferlera comme ça un peu. Et donc, c'est un peu devenir manager. Ce n'était pas une grande ambition de devenir directrice non plus. Mais c'est venu à moi parce que le chemin s'est fait en faisant faire en sorte qu'il y ait une bonne ambiance, faire en sorte que les soignants qui sont 85%, 90% des femmes, ne s'usent pas dans le travail, mais prennent aussi du plaisir elles-mêmes, qu'elles apprennent à prendre soin d'elles aussi, prennent soin d'eux. Et donc, c'était un peu mon métier est parti de ça, de manager, puis les États-Unis, l'équipe, comment faire équipe, comment promouvoir le travail en équipe, comment sécuriser les gens, puisque ce truc de l'erreur m'a un peu traversé tout le temps. Et puis, j'ai découvert à quel point l'équipe était celui qui récupérait l'erreur, que l'erreur pouvait pas être empêchée, mais que l'équipe pouvait récupérer. Donc, je me suis dit, on va promouvoir l'esprit d'équipe dans l'hôpital, on va aller promouvoir le fait que la vulnérabilité est source d'enseignement et aussi source d'empathie et de capacité à faire ensemble. Et donc, de ça, je suis repartie à l'école, une école de commerce. Et puis, le centre Léon Bérard a entendu parler de moi parce que je me mettais à faire des caméras embarquées sur les patients. Dans les services de soins, puisque je voulais montrer aux établissements que le patient voyait des choses que nous, qui sommes de l'autre côté, ne voyons pas. Et il voit tous nos défauts de coordination, nos défauts de communication et parfois nos sujets de stress. Et donc, comme j'essayais de faire comprendre ça par des mots, bah, ça ne marchait pas, la caméra, bah, ça calmait tout le monde. Et donc, voilà, la
mais
caméra
embarquée. C'est une super idée, oui, oui. Non, mais c'est vrai, on ne voit plus du tout les choses de la même façon.
On voit les choses de la même façon. Et donc, le centre m'a dit, viens faire plutôt de la recherche, de l'enseignement et du soin, au lieu de nous filmer, travaille avec nous. Et puis, c'est ce que j'ai fait. Et donc, après, j'ai imaginé le parcours, parce que, OK, faire du soin, et c'est là où je te rejoins, il ne suffit pas de faire du soin, il faut accompagner le parcours. Un cancer, c'est un 4 tonnes qu'on se prend plein tête. Aussi bien la personne qui vit le cancer, mais que sa famille, c'est tout l'entourage. Et donc, on ne peut pas juste se concentrer sur le traitement du médicamenteux, mais tout l'ensemble. Et donc, je trouvais réducteur de me retrouver à être juste sur les soins. Donc, voilà pourquoi le parcours.
C'est très bien, bravo, merci beaucoup. Marie, alors, vous partagez notre parcours. Ah non, on commence pas comme ça. On est au Lyon, on commence pas à dire « Ah ouais, alors moi, non, non, non. » Non, non, si vous êtes là, c'est que vous avez une raison d'être là.
Je suis vraiment, vraiment honorée de rencontrer toutes ces dames, de revoir toutes ces expériences incroyables. Et c'est...
Alors, racontez-nous votre parcours. Donc, vous avez fait quoi ?
Voilà, donc moi, depuis plus de 25 ans, je suis coiffeuse coloriste. Et j'accompagne toutes les personnes sur l'image de soi. Je conseille énormément dans tous les événements de tout ce qui se passe dans la vie.
Oui, dans les bons les jours, comme les mauvais côtés.
J'accompagne toutes mes clientes dans chaque instant de leur vie.
Ouais.
Et ça fait ça depuis plus de 25 ans maintenant. Je suis formatrice aussi dans une grande maison. Je peux citer
Camille Alban et Desanges.
Ils sont incroyables. Et donc, formatrice depuis plus de 10 ans dans cette grande maison. Merci beaucoup. Et c'est vrai que c'est un métier passionnant, c'est un métier où on encadre beaucoup, c'est un métier où on est très bien entouré et il y a l'esprit d'équipe qui est là. Et tout ça pour l'image de la cliente. La cliente, c'est vraiment celle qu'on apporte au maximum de son bien-être et qu'on coucoune et qu'on apporte au maximum de, de, de choses.
On prend soin, voilà.
On prend soin énormément.
Mais vous, du coup, vous avez eu envie d'aller encore plus loin.
Voilà. Et il y a quelques années, j'ai eu ma grande directrice qui m'a proposé d'accompagner un petit peu plus, d'aller vraiment au-delà de tous ces événements qu'on avait. C'est vrai que jusqu'à maintenant, on accompagnait nos clients dans tous les événements de la vie. Et quand on avait des clientes qui nous annonçaient qu'effectivement, il y avait des maladies, des pertes de cheveux, des alopécies ou des choses comme ça, ben, du coup, c'était compliqué. Et le fait de pouvoir devenir prothésiste capillaire, maintenant, ça me rend un peu plus légitime. Et je peux être là et être là, conseiller et accompagner dans cette bienveillance et dans tous ces moments-là. Donc, ça, tout a changé, en fin de compte.
Là, c'est une formation spécifique que vous avez faite ?
Exactement. C'est une formation spécifique donc avec un groupe qui s'appelle NNWILE, qui est allemand. Et donc, maintenant, quand une cliente, par exemple, apprend qu'il y a une maladie, quelque chose, après un rendez-vous avec un oncologue, elle vient, moi, j'arrive directement un petit peu au mauvais moment de ce moment-là parce que elle vient d'apprendre cette mauvaise nouvelle et forcément, la première chose qu'on pense, c'est mes cheveux vont tomber. Et c'est là où tout mon métier prend son sens, où tout notre métier de coiffeur est important, l'image de soi. Et là, voilà, je me sens un petit peu plus légitime à dire, mais je vais être là et je vais vous conseiller, comme je l'ai toujours fait pour celles que je connais depuis des années et qui malheureusement traversent ces moments. Je peux être là et c'est réconfortant pour elles parce que les témoignages qui en sortent, effectivement, elles me connaissent pour celles qui voilà. Et pour d'autres, elles me disent ok, donc comment ça va se passer? Donc là, moi, j'évoque exactement entre les protocoles de chimiothérapie, comment ça va se passer et la rapidité à laquelle je vais pouvoir agir pour que dès que l'instant les cheveux vont tomber, il va falloir que tout soit là, tout soit prêt et qu'elles me téléphonent et que j'intervienne tout de suite pour les enlever. Les prothèses capillaires sont très confortables, adaptées. Ça n'a rien à voir avec les perruques qu'on avait il y a 20 ans. Maintenant, c'est des techniques incroyables en 3D, système 3D. Les montages sont hyper agréables. Le cheveu peut repousser en dessous tout en sécurité, avec une prise en charge par la sécurité sociale et la mutuelle. Donc, on est vraiment sur des produits qui sont extrêmement de qualité et sécurisants pour la repousse des cheveux. Et vraiment, c'est très joli en termes de look. On se reconnaît, l'image de soi. Enfin, chaque personnalité va retrouver exactement son look. Moi, j'ai des jeunes femmes, malheureusement, qui vivent cette situation, mais qui peuvent continuer à aller travailler.
C'est un rôle très important pour
l'école. Ouais. J'accompagne des ados aussi, parce que
tout le monde. Ouais.
Donc, les ados, elles continuent à aller au collège, elles continuent à aller au lycée. Surtout cet âge-là, c'est encore plus important parce que c'est là où on se construit. Donc maintenant je décide de. Je suis très bien dans le salon auquel je travaille, mais je vais décider à partir de janvier 2025 de me consacrer entièrement à l'accompagnement comme ça. Donc je me lance directement en tant que prothésiste capillaire.
On va accompagner votre lancement. Voilà, bravo Marie.
C'est une chose qui a du sens pour moi.
Justement, gardez le micro parce que je voudrais qu'on parle de ce qui a guidé vos choix. Parce que là, on parle de sujets. Alors, ça peut paraître un peu comme ça, hyper lourd et grave, etc. Mais précisément, je trouve que c'est très illustrant parce qu'on est sur des périodes de la vie que tout le monde traverse quasiment plus ou moins à un moment donné. Mais vous, qu'est-ce qui a guidé votre choix pour vous dire j'ai envie d'aller là-dessus, parce que c'est quand même des charges émotionnelles qui sont très fortes, ce que vous nous décrivez, c'est quand même des choses qui ne sont pas sans conséquences. Donc qu'est-ce qui a fait que vous avez eu envie de vous engager là-dedans et pourquoi c'est important pour vous ?
Alors moi maintenant j'arrive à avoir de la confiance en moi dans mon travail et je me sens suffisamment dans un savoir-faire qui fait que je me sens complètement légitime de pouvoir conseiller déjà et d'être là dans le bon conseil, le bon produit, parce que j'ai confiance avec mes produits, je sais ce que je conseille et dans l'image aussi par rapport à maintenant les capacités que j'ai en colorimétrie, en coupe, en visagisme, en confort, je sais ce que je dis, je sais ce que je peux conseiller, donc j'ai confiance en moi là-dedans.
Okay.
Donc j'ai plus qu'à transmettre cette confiance en moi que j'ai par rapport à mes capacités sur je vais être là, j'ai compris, j'entends. Et j'ai entendu, enfin, écouté déjà, parce ouais. que là, quand j'ai affaire à quelqu'un que je ne connais pas, donc c'est une rencontre un peu, je tombe mal en fait, hein, ça n'a rien à voir.
Vous n'avez pas une bonne nouvelle à la base.
À un événement, là. Voilà, on n'a même pas envie de me rencontrer quand c'est comme ça. Hein. Mais au moins, le fait que j'ai vraiment cette écoute et cette compréhension, et le fait qu'il va falloir que je sois réactive, pour moi, c'est un challenge aussi. De me dire, voilà, là, je vais la rendre belle. Elle va pouvoir retourner travailler. Elle va se sentir mieux quand elle va se regarder dans le miroir. Et moi, je ne vais pas changer grand-chose dans la maladie. Ça, c'est évident. Hein. J'ai des clientes qui sont venues me voir qui étaient en soins palliatifs. Donc, il a fallu assumer, moi, derrière. Mais en même temps, elles voulaient être dignes, aller à un mariage. Je pense notamment à quelqu'un qui était incroyable et merveilleuse, qui m'a donné la force aussi de dire, allez, j'y vais. Et on y va, quoi. Et je pense que, voilà, j'ai cette force. Et même pour les enfants, comme je disais, les enfants, les ados, que j'ai toujours un petit texto. Allez, tu vas au collège, tu vas, t'es trop belle. Ça va bien se passer.
Et ça se passe bien.
Et ça se passe bien. Et ça repousse.
Et ça repousse, bien sûr. Bien sûr. Ouais. Christelle, est-ce que tu peux nous partager, toi, qu'est-ce qui a guidé, tu nous l'as un petit peu dit tout à l'heure, pour être au cœur du système hospitalier, mais pourquoi c'est important pour toi de prendre soin des autres ?
Parce que j'ai l'impression d'être connectée à l'énergie vitale des soignants. J'ai l'impression d'être... J'ai toujours voulu faire ce métier de soins depuis toute petite.
C'est ta place.
Ouais, c'est venu à moi et c'est encore à moi et je me sens à ma place. Après... qu'est-ce que je vais y faire ? Et là, l'enjeu, c'est de se renouveler régulièrement. Et aussi d'être au plus juste. Et en plus, que j'ai toujours de l'énergie pour éviter de... puisque c'est du 24 heures sur 24, un hôpital, c'est des équipes jour et nuit, c'est 900 soignants, c'est plus de 45 000 patients par an. Et c'est des vies qu'on rencontre. On ne sait pas. Donc, on a un enjeu d'avoir... de délivrer le bon soin, mais aussi d'être juste dans le soin et que chaque personne qui accueille, que ce soit la personne à l'arrivée dans l'hôpital, la personne qui fait le ménage dans la chambre, la personne qui transporte d'un point A à un point B, le brancardier, que le chirurgien, qu'on soit tous humainement dans la capacité de rencontrer l'autre. Et ça, c'est comment transmettre des valeurs à une équipe aussi grande et comment garder l'envie de faire ensemble alors qu'il y a des moments, comme vous le savez, on a moins de personnel, il y a plus de difficultés jour, nuit, et puis il y a des patients qui nous touchent, nous fait dire mais peut-être que je devrais vivre ma vie et pas passer ma vie à l'hôpital. Peut-être que j'ai aussi, peut-être qu'il est temps de prendre et comment prendre soin des uns des autres parce qu'il y a des moments plus difficiles que les autres. C'est vraiment toujours me dire est-ce que je suis juste, est-ce que dans chaque rencontre je suis vraiment moi aussi et donc j'ai avant tout dû prendre connaissance avec moi-même. Ça c'était parce que la maladie ou en tout cas la rencontre. Avec ces moments si intimes, la personne face à nous, elle fait une preuve de vulnérabilité, d'intimité très forte. Et que si on porte un masque ou on est dans faire mon métier et pas être. Et donc être, ça veut dire quoi ? Et moi, je savais ce que je voulais pas être. Mais assumer la femme en moi, mettre des talons alors que je travaille dans un hôpital où je devrais mettre des sabots... je peux vous dire que c'est détonnant, le côté talon à l'hôpital. Le fait de mettre peut-être un rouge à lèvres un jour. Vraiment, on n'a pas le gros vernis, donc on fait ce qu'on... Il y a plein de... Tous les signes extérieurs, c'est comment être soi. Voilà, donc moi, vraiment, je suis aujourd'hui directrice des soins des parcours et je sens que je commençais à m'user un peu et donc je travaille sur quelle est la prochaine étape professionnelle et effectivement comment être toujours au plus juste. Et voilà, moi je sens que l'équipe soignante est fatiguée, donc je me suis impliquée dans la vie institutionnelle mais aussi nationale et donc aujourd'hui J'ai envie de repenser un peu le système de santé à ce point-là, c'est-à-dire que passer d'un système curatif où on fait du soin à un système préventif, et je te remercie Sophie pour ton engagement, parce que tu montres aussi le chemin de, avant d'être malade, on peut déjà être en bonne santé et se maintenir en bonne santé. Et comment se maintenir en bonne santé? Et comment et c'est vrai que trop souvent, j'entends à l'hôpital, si j'avais su, j'aurais fait du sport, si j'avais su. Et donc, je pense que tu participes largement. Voilà, donc c'est comment faire équipe avec tout ce monde et continuer à porter que le système de santé nourrisse et réponde aussi aux besoins de bonne santé avant de répondre aux besoins de la maladie. Voilà, c'était un peu... Et donc, m'engager là-dedans et aller bousculer un peu les codes au ministère, ça fait pas de mal.
Christelle, je crois qu'on va être nombreux à t'encourager dans cette voie parce que, clairement, c'est assez rassurant d'entendre qu'il y a des gens qui réfléchissent et qui se posent toutes ces questions. Ça nous réconcilie. Non, mais voilà. On t'encouragera dans cette voie. Sophie, est-ce que tu peux nous partager, toi, pourquoi c'était important de prendre soin des autres et qu'est-ce qui a guidé ce choix de créer Courir pour elle, c'est venu comment concrètement? Pourquoi ce choix? Tu parlais de oui, tu courais, tu faisais du marathon, mais pourquoi d'un seul coup on change sa vie et on fait ça?
Alors déjà, moi je voulais te remercier, Alexandra, parce que tu, en tant que maman lyonne, tu prends bien soin de nous. Et ça, c'est très important et on devrait la remercier, on devrait lui faire un.
Sauf que ce n'était pas du tout le but. Merci beaucoup.
Et tu es toujours à nos côtés et c'est vrai qu'aujourd'hui dans une société tellement clivée, oui. Horriblement, et pas jolie, hein, notre société actuellement, eh bien faire du bien fait du bien. Et on en parlait hier soir justement sur les entreprises généreuses et chacun avait sa petite citation et moi j'ai eu la mienne. Alors je l'ai oubliée tout de suite puis après elle est revenue et c'est la suivante, tu es ce que tu fais. Et je trouve qu'elle est très belle, c'est Sartre qui a dit cette phrase. Et en fait, notre passage est court. Hein. Parfois, il y a une embûche, on tombe malade. D'ailleurs, je pense qu'ici, personne ne peut dire « je ne tomberai jamais malade ». Et d'ailleurs, à ce sujet, je voulais vous faire un petit exercice pour vous poser des questions. Alors, je vais un petit peu parler. Et est-ce qu'on pourrait, à chaque fois que vous êtes d'accord avec moi, je vous pose la question, vous vous levez? Parce que l'idée, quand même, de courir pour elle, c'est de fuir la sédentarité et de, au minimum, rester assis. En fait, l'ennemi numéro un, vous êtes assis dessus, c'est la chaise. Donc, est-ce que vous êtes tous d'accord quand je vous pose une question, mais ça n'a pas du tout.
Alors, on est d'accord.
Que personne est épargné. Est-ce que ça marche?
Oui, oui, ça marche bien.
Est-ce que vous êtes tous d'accord pour dire que personne n'est épargné par la maladie du cancer? Bon, voilà. C'est bien parce que vous êtes debout. C'est très important d'éviter de rester 2 heures assis. Hein. On commence. Alors, pourquoi j'ai crié courir pour elle? Parce que
je suis peut-être.
Moi-même.
Voilà.
Vous avez le droit de vous asseoir. Hein. C'est comme à la messe, on s'assoit. Non, alors c'était facile oui. Parce que moi, je suis... autant pourquoi je me lave les dents en me levant le matin, autant je vais faire du sport. En fait, c'est mon hygiène de vie. Je
n'ai
pas tellement de mérite, en fait. C'est en moi. Si je reste sédentaire, je suis malheureuse. Je suis comme un lion en cage. Donc, j'ai besoin de mon shooting. Donc, je suis forcément envahie par cette conviction qu'on n'est pas né pour être assis, encore moins dans des voitures, encore moins dans des ascenseurs, pas plus que sur un canapé, encore moins dans la télévision. Donc, tout ça, là, Berk...
T'as raté, mais il y a une dame qui s'est levée pour manifester le fait qu'elle était d'accord avec toi. Je tiens donc à la saluer, parce que je pense être la seule à l'avoir vue. Merci, merci.
Est-ce que tout le monde est d'accord sur le fait de dire que... il faut un maximum passer du temps debout. Donc c'est facile pour moi, voilà. Et à un moment, je me suis dit, utilise cette énergie, vis ton expérience de cours de marathonienne. Puis je commençais un petit peu à m'esquinter, hein, parce qu'à force de courir, et puis on a mal aux genoux, puis on se fait des fractures de fatigue, bref. Donc voilà, envie de communiquer cette conviction. Vers les autres. Donc voilà. Et puis ça a été des rencontres aussi. Moi j'ai fait tout au long de ma vie des belles et des. Alors je ne parlerai que des jolies parce que les autres on les oublie. Des belles rencontres et j'ai eu ce moment très émouvant. J'ai rencontré une femme, elle avait 32 ans. Puis elle m'a dit tu sais, quand on attrape un cancer, le pire ce n'est pas tellement de se dire je vais être malade et je peux mourir. C'est d'imaginer qu'on va laisser des orphelins. Et en fait, ça m'a... Waouh ! À l'époque, moi, j'ai 3 enfants aujourd'hui, mais je n'en avais pas. Et je me suis dit, en effet, wow, qu'est-ce que je peux faire ? Et c'est toujours cette idée de comment je peux rendre un petit peu la société plus jolie avec mes moyens. Donc moi, je courais, j'adorais ça, je kiffais m'inscrire à une course. Donc voilà, j'ai lancé ce projet. Et puis, petit à petit, ben, il a pris, parce qu'en fait, 15 ans plus tard, il s'avère que la science, les médecins sont convaincus que intégrer une activité physique avant, pendant et après un cancer, ben, ça permet d'assimiler les médicaments beaucoup mieux, les traitements, d'avoir un esprit beaucoup plus combatif. Et puis... de fuir quelque chose qui est terrible dans la maladie, c'est l'isolement. Alors je dirais, notre société isole, hein, à cause du confinement, on a été très isolés, et les gens sont restés un petit peu reclus chez eux. Et donc le sport permet de se retrouver, nivelle les niveaux. On a vu cet été les étincelles d'étoiles dans tous les yeux. On était tous ensemble, on était tous bleu, blanc, rouge. C'était la joie, la liesse. Et moi, je suis convaincue que si on mettait du sport un peu plus dans le quotidien de tout le monde, ben voilà, on ne serait pas dans l'état, le monde ne serait pas dans cet état. Donc voilà, je suis animée par cette conviction que bouger est sain pour la santé, sain, S-A-I-N. Donc c'est facile pour moi. Et puis après, ben voilà, la science est arrivée. J'ai à mes côtés beaucoup d'anciennes malades. Alors il y a quelque chose qui s'est passé à Courir pour Elle de magique. Il y a des femmes qui n'avaient jamais fait une activité sportive qui sont, ma foi, tombées malades. Alors je ne vais pas dire que parce qu'on ne fait pas d'activité physique on tombe malade, parce que c'est multifactoriel. Et je ne suis pas médecin, il y a un médecin parmi nous, ou peut-être plusieurs, elle est là au fond. Et c'est prouvé. Alors, il y a quelque chose qui est extraordinaire, c'est que derrière vous, et c'est pour ça que vous allez vous relever et regarder derrière vous, il y a un très beau panneau qui dit que 40% des cancers peuvent être évités en suivant les recommandations de l'OMS. Donc voilà, c'est prouvé, c'est scientifique. Aujourd'hui, si vous faites attention à ces 4 facteurs de risque qui sont la sédentarité, éviter le tabac et l'alcool, manger bien, et le quatrième, excusez-moi.
Bah, t'as dit, le tabac et l'alcool, c'est deux choses différentes.
Et bouger. Voilà. Et puis, non, il y en a 2 autres que vous retrouvez
sur le partage. Non, bouger plus,
c'est suivre les programmes de dépistage et faire vacciner les filles et les garçons contre le papillomavirus. Voilà. Ça, c'est prouvé. Alors, nous, on est arrivés en 2010, on était un petit peu des fofolles. Hein. Je me souviendrai toujours cette rencontre avec un onco de Villefranche qui nous a vraiment pris pour des hystériques, puisque moi, j'étais avec une enseignante APA. Et puis, on lui a dit, bon, on va faire mettre des baskets à vos malades et de manière à ce qu'elles sortent de l'hôpital et qu'elles reprennent confiance en leur corps. Il nous a vraiment pris pour des hurluberlus, surtout moi qui ne suis pas scientifique. Et puis le temps a passé et puis les malades sont revenus au centre du dispositif. On dit qu'est-ce que je me sens mieux. Et ce sont tels en témoins qui ont dit mais ok, on y va. Voilà, donc aujourd'hui, ben, Courir pour Elle, c'est ce que c'est. On peut dire c'est une marque ou une institution. On a tout le corps médical et scientifique à nos côtés. J'espère que très bientôt, on pourra sortir de la métropole et aller répandre ce rose dans cette société morose.
Christelle, à toi, comment il est venu cet engagement ? C'était une histoire plus personnelle au départ ?
En fait, ça s'est fait de manière un peu naturelle. On était un tout petit peu moins... informé en 2002, il y avait beaucoup moins de... Voilà, on parlait pratiquement pas d'Alzheimer, c'était oui. Classé dans les démences séniles. Donc en plus, un Alzheimer précoce, c'était... Voilà, moi, ma mère faisait énormément de sport, buvait pas d'alcool, ne fumait pas. Bon, voilà, ça lui est tombé dessus. Hein. Voilà, 56 ans, elle travaillait, elle conduisait sa voiture, elle était éducatrice de jeunes enfants. Voilà, on se retrouve avec un diagnostic comme ça qui pulvérise toutes les projections qu'on pouvait se faire d'un avenir. Donc je me suis retrouvée avec ma mère sous le bras et le diagnostic de l'autre côté qui est un diagnostic qui est livré sans boîte à outils. C'est-à-dire qu'on sait qu'on n'en guérit pas. On n'a pas de solution thérapeutique aujourd'hui. Il n'y a pas de médicaments. On ne guérit pas d'une maladie d'Alzheimer. Il y a une prise en charge, même si je préfère dire prise en soin, qui est un peu plus, qui est un peu plus conséquente qu'à l'époque, mais on est encore, voilà, il y a des traitements qui commencent à, on a une petite lueur d'espoir, mais pas pour les malades d'aujourd'hui, puisque quand les symptômes sont déclarés, la maladie, ça fait déjà une dizaine d'années qu'elle est présente et qu'elle fait des dégâts dans le cerveau, d'où l'importance des diagnostics précoces. Donc en fait, quand je me suis retrouvée ce jour-là en sortant de chez la neurologue avec mon diagnostic, bah, la première chose que j'ai faite, c'est de me dire qu'il faut que je trouve une association qui va peut-être m'aider, me donner des clés, etc. Donc je suis allée frapper à la porte de France Alzheimer. C'était une association, ça l'est toujours, hein, il y a toujours en plus des mêmes membres 20 ans après, on est encore. Mais voilà, c'est eux qui m'ont quand même beaucoup sauvé la mise, qui m'ont fait comprendre la maladie. J'ai fait la formation des aidants parce que c'est une maladie qui est très compliquée, qui est chronophage, qui est, pour peu qu'on ait une petite blessure narcissique, c'est très embêtant quand son proche, sa maman, son conjoint ne vous reconnaît pas. Ouais. C'est pas comment vous appelle, vous dites bonjour monsieur, enfin, il y a plein de choses, c'est agressif, enfin, il y a tellement de manifestations différentes dans cette maladie que voilà, on est un peu désarçonné. Et c'est vrai qu'ils m'ont tellement aidée. Je suis rentrée après au conseil d'administration pour les aider à organiser des événements. Alors c'était un peu archaïque comme organisation. Puis en plus, nos bénévoles en général sont dépassés quand même la soixantaine. Hein. Ils sont beaucoup beaucoup plus âgés, donc il fallait un peu rafraîchir tout ça, les aider. On faisait des petits événements et puis voilà, petit à petit, les choses ont évolué. Et puis une fois que moi j'avais fait mon parcours des dents et que bah, on m'avait donné tellement d'enseignements, de conseils, de choses comme ça, que c'était à mon tour de transmettre. Et je ne peux pas aujourd'hui, même si moi le chapitre avec la maladie c'est clos en 2016 avec le départ de ma maman, je ne pouvais pas... Après, c'est personnel. Il y a des gens qui veulent faire une... Et je ne juge pas. Ils ne veulent plus entendre parler de cette maladie. On a des gens qui quittent l'association, qui quittent les groupes de parole ou des choses comme ça et qui veulent plus en entendre parler. Moi, ce n'était pas mon cas. Je voulais continuer à prendre mon bâton de pèlerin aussi pour déculpabiliser les aidants. Parce que c'est une maladie qui est tellement chronophage, qui prend tellement d'énergie, qui est tellement lourde. Voilà, s'occuper d'un malade d'Alzheimer, ça peut vous rendre fou. Ça peut rendre fou. Il y a beaucoup d'aidants d'ailleurs qui partent avant la personne malade, parce que ils tombent malades eux-mêmes et ils s'épuisent. C'est un peu le credo d'ailleurs de l'association, c'est aider sans s'épuiser. Oui. Donc moi, c'est important pour moi et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre pour déculpabiliser les aidants et pour aussi dire que dans cette maladie, évidemment que c'est terrible, évidemment que c'est dramatique. Je ne vais pas travestir la vérité, mais néanmoins, il faut savoir aussi trouver les petits moments de joie, de poésie et de cocasserie, parce que ce sont des malades qui sont sans filtre. Donc on se retrouve avec des situations cocasses, très drôles. S'ils ont envie de vous dire que tu as un gros cul, eh ben ils vous le diront. voilà, donc c'est vraiment des personnes, c'est souvent des personnes, une galerie de personnages comme ça qui sont, voilà, qui peuvent parfois être amusantes. Et il faut savoir trouver cette étincelle, cette nouvelle forme de communication. Avec, parce que tout s'efface. Oui. Hein, c'est le lent désapprentissage de la vie. Alors, j'aime pas quand on dit que les malades retombent en enfance. Ils ne deviennent pas des enfants. Ils retombent, en fait, dans un monde d'enfants. Mais ils restent avec leur histoire, avec leur vécu. Il n'y a pas deux malades d'Alzheimer pareils, parce que tout rentre en ligne de compte. Hein, les peurs, le vécu, etc. Mais néanmoins, vous avez quand même des personnes dont le caractère change considérablement, qui deviennent complètement... désinhibés, qui peuvent devenir parler comme des charretiers, qui peuvent se déshabiller, qui peuvent voilà, on a affaire à beaucoup de choses et pour l'aidant qui doit traverser, occuper et gérer ça, déjà il y a le côté compréhension de la chose pour pouvoir réagir de manière appropriée, mais aussi être capable de s'écouter et d'aider sans s'épuiser et de il y a un moment vous pouvez pas faire autrement que de placer la personne. C'est héroïque. C'est même prendre une autoroute à contresens que de garder un malade à la maison.
C'est même prendre un risque.
Mais si on prend des risques considérables, parce que déjà, alors les structures, elles ont évidemment... j'ai envie de dire, on n'est pas dans la solution parfaite. On ne l'aura jamais. On va choisir la solution qui sera la moins pire, la moins catastrophique. Mais il y a quand même une équipe. pluridisciplinaire. Il y a des gens qui s'observent, ne serait-ce que la personne qui passe le balai et qui nettoie. Les gens se regardent entre eux. Voilà. Quand vous avez quelqu'un, je vais vous donner un petit exemple. Moi, ma mère, elle s'est mise à siffler. Donc, c'est très amusant. Le premier jour, mais quand vous avez quelqu'un qui, 22 heures sur 24, vous siffle dans les oreilles, vous devenez fou.
Oui.
Vous devenez fou et il faut des relais. Mmh. Et garder des gens à domicile qui peuvent ensuite faire... moi, alors, quand elle était... parce que je l'ai gardée de 2002 à 2008, donc on l'a gardée quand même 6 ans à domicile. Il y a eu des moments où elle nous a fait des choses, où elle a vraiment... Elle a failli faire créer un incendie parce qu'elle ramassait des feuilles toute la journée. Elle sortait, elle en mettait dans toutes ses poches, puis elle en décorait toute sa maison. Puis elle a commencé à les bourrer dans les appliques. Voilà, donc un jour, ça a pris feu et on a dit là, il faut qu'on arrête. Mais ce passage du placement de la personne est quelque chose d'abominable. Mmh. Parce qu'on a le sacro-saint joug social. On l'a tous entendu. Hein, vous ne me placerez jamais. Jamais j'irai là. Donc placer sa maman, son mari, c'est absolument épouvantable. Mais on ne peut pas faire autrement. Et moi, je travaille aussi, je milite pour ça, pour déculpabiliser les gens.
C'est très
important. Parce que c'est extrêmement important. Et apprendre à s'écouter. Et parfois, même si on n'a pas envie de faire du sport, et ben de rester dans son canapé avec un petit verre de vin rouge, ça fait quand même du bien.
Est-ce qu'on peut se lever pour être d'accord?
J'aimerais que tous ceux qui sont d'accord avec moi, c'est vrai. Mais d'apprendre aussi à s'écouter et de savoir de temps en temps juste un peu lâcher la bride pour se faire du bien et de reconnaître sa limite.
Alors justement, en vous écoutant, j'ai la question qui me vient, c'est est-ce que c'est une spécificité féminine de s'occuper à ce point des gens? Parce que là, je veux dire, vous avez choisi toutes, ou vous êtes arrivées en tout cas dans des domaines où vraiment il y a un don de soi, il y a des limites dans le don de soi, vous l'avez bien exprimé, c'est-à-dire qu'il y a un moment où il faut savoir s'arrêter. Alors comment on fait pour s'arrêter? Quand est-ce qu'on se dit, comment on se remet d'accompagner quelqu'un? Enfin, je pense que la charge émotionnelle, elle doit être particulièrement forte dans des expériences que vous avez vécues, où vous vivez, parce que d'un seul coup, les gens sont en face de vous, ils sont en train de vivre quelque chose de très violent, et vous êtes là à les accompagner, mais du coup, il faut le recevoir. Et est-ce que c'est féminin, ou est-ce que, non, c'est une nature? Est-ce que...
Féminin, je ne crois pas, parce qu'il y a des hommes qui sont aussi engagés, qui sont formidables. Alors après, moi, je vais juste ajouter un petit bémol. Même si je travaille dans l'association, que j'organise des choses, je ne suis pas celle qui répond au téléphone tous les jours aux gens. Je ne suis pas celle qui reçoit les familles. On a un tas de bénévoles qui sont là pour ça. Moi, j'ai envie de dire... je suis une privilégiée. J'ai la chance d'avoir un réseau. Je le mets. Voilà,
on le met à contribution.
Voilà, j'ai envie de dire, c'est pas moi qui suis tous les jours sur le terrain. Et je voudrais rendre hommage
précisément
aux bénévoles
bien sûr,
sont dans l'anonymat et sont dans le. En revanche, ce qui est sûr, c'est que le répit est quelque chose de primordial quand on accompagne et même quand, je pense, quand on est engagé. Je pense qu'il faut savoir à un moment aussi prendre parfois un peu de distance, recharger ses batteries et revenir encore un peu plus galvanisé.
Mais je sais précisément, pas si vous êtes... toi, tu es dans le milieu du spectacle, tu aurais très bien pu tourner la page du chapitre et puis passer à autre chose. Alors, après, on le fait chacun avec effectivement le chemin qu'on a emprunté et qui nous amène à ce qu'on peut faire. Mais du coup, tout ton carnet d'adresse, lever des fonds, on sait que c'est hyper important. La recherche en santé, on en a cruellement besoin. Tout le monde cherche des fonds pour ça. Donc, c'est aussi une autre façon de le faire. Mais malgré tout, c'est quand même très prenant. C'est un engagement.
Oui, c'est
supplémentaire.
On ne peut pas passer sa vie à prendre, à recevoir et rien donner. Et vraiment, le don, l'engagement, etc., ça a un côté hyper gratifiant aussi. Moi, je suis hyper fière quand on va se retrouver lundi, quand on aura, que les gens seront au cocktail, qu'on aura terminé le spectacle, etc. On mouille le maillot chaque année. Hein, c'est... Faut quand même y aller. On a quand même on sort avec quelque chose, on sort avec une lumière en soi qui est quand même extraordinaire. Et faire du bien, c'est aussi se faire du bien. Mmh. Voilà.
Sophie, qu'est-ce que tu en penses, toi?
Et moi, je te dirais par rapport au fait de dire prendre soin, c'est plutôt féminin. Moi, je pense pas du tout parce que, en effet, on a vu quelque chose après le confinement, c'est que on a eu une partie de nos bénévoles qui étaient plutôt des seniors qui ne sont pas revenus. Ils ont eu peur, ils ne sont pas revenus. Et par contre, on a vu quelque chose d'extraordinaire, de très vertueux. C'est les jeunes garçons qui sont arrivés, donc les étudiants, qui ont eu envie de mettre du sens. qu'ont peut-être eu des mamans malades ou des sœurs, puisqu'aujourd'hui, hein, on peut dire, le cancer, il y a 15 ans, 20 ans, touchait plutôt des femmes de 70, 80 ans. Aujourd'hui, vraiment,
la moyenne d'âge a baissé. Ouais.
On voit, alors nous, on a une campagne de prévention qui prend des visages de femmes qu'on a accompagnées. Donc, il y en a qui ont 67 ans. Puis, on en a plein, on a toute une série de femmes qui ont plutôt 30 ans, on a des 20 ans. Et donc, on voit les frères arriver, on voit les papas arriver. Et en fait, je ne pense pas que ce soit genré. Après, bah, c'est une histoire de temps. Hein, et puis, encore une fois, comme tu disais, faire du bien fait du bien. Et peut-être que les hommes trouvent d'autres sources pour se faire du bien, notamment le sport. Et je dirais quelque chose qui est très important. Prendre le temps de prendre soin de soi, ça va permettre de prendre soin des autres. Parce qu'il est essentiel d'être dans une bonne forme. Donc je reviens à la nécessité de prévenir plutôt que guérir. Ouais. Parce qu'on va dire que le Centre Lombérard est un endroit merveilleux avec des personnes merveilleuses. Mais je peux vous dire que pour y aller, pour signer des conventions, c'est vraiment le pire des endroits où passer ces week-ends, voire ces semaines. Donc en fait, on peut se dire quelque chose aussi dans notre société aujourd'hui qui n'est pas en bonne santé mentale. Hein. Il y a un endroit qui ne va pas bien, c'est l'hôpital hein, quand même. Donc moi, je n'invente rien, je dis juste ce que les autres disent. Et pour moi, en fait, il me semble qu'il y a un endroit où il ne faut pas aller, c'est à l'hôpital. Et ma conviction... Je ne suis pas gentille, hein, mais j'ai plein de copains. Hier, j'étais au GHE.
Non, mais ce n'est pas la question.
Non, mais c'est un petit peu humoristique ce que je dis. On est tous bien d'accord. Est-ce qu'on est tous d'accord, d'ailleurs? On est tous d'accord qu'il faut prévenir plutôt que guérir et faire une activité physique. Je reprends les scientifiques. Ils disent tous qu'il faut faire 20 minutes par jour, 5 fois par semaine, de manière régulière. Et une activité physique, c'est sentir son cœur battre, un petit peu transpirer. C'est pas faire du shopping, ni se balader. Voilà. Donc, en fait, c'est assez simple. Ce sont des petits changements au quotidien. C'est-à-dire, c'est arrêter son autobus avant et marcher un peu. C'est éviter l'ascenseur ou l'escalator. C'est des petits, c'est des petites choses au quotidien qui deviennent des habitudes. Et moi, je cite souvent cette scientifique qui me disait, alors elle l'a pas élaboré. Elle disait, plus tu fais, plus tu as envie de faire et plus tu es capable de faire. Donc c'est un cercle vertueux. Plus tu fais une activité physique, plus tu as envie de le faire et plus tu te sens capable de faire. À l'inverse, et c'est vraiment vrai, et ça c'est vraiment palpable. Et
plus tu bois, ça marche aussi.
Et plus tu as envie de boire. Non mais c'est les cercles vertueux et vicieux.
Je propose juste qu'on continue la discussion avec Christelle. Bah oui, qu'on s'arrête pas, parce qu'on est un peu dévié. Si on branche Sophie, on peut passer à la soirée, on va se lever, on va s'arrêter. Non, Christelle, partage-nous, toi, ce que tu penses.
C'est intéressant ta question, parce que je sais que vous avez répondu non, c'est pas un truc féminin. Mais moi, je me rappelle, dans ma famille, mon père était sicilien, et je peux vous dire qu'il a élevé ses filles différemment que ses garçons. Et que... Je ne vois pas mon frère infirmier. Donc, quand même, peut-être, c'est pas que c'est une question, mais c'est une question d'éducation, sûrement. Et qu'il a fallu sortir, en tout cas pour moi, et encore aujourd'hui, je pense que le meilleur gardien dans ma vie, de ma santé, c'est mon mari. Parce qu'il voit bien à quel point, quand je rentre dans la maison, si je suis énervée, là, il faut que tu te poses. Et que j'ai encore besoin de gardien à mes côtés, parce que de temps en temps, je m'oublie dans ce truc où je capte les besoins des autres avant les miens.
Et oui, c'est sans fin. C'est sans fin de capter les besoins des autres. Donc comment on fait pour faire cette distance ?
Bah oui, c'est pour ça. C'est le meilleur endroit de la vie pour pouvoir pour s'éclater là-dedans. On peut se noyer là-dedans.
Oui.
Pour ça, tu as raison.
Mais donc comment on fait pour garder la distance ? Parce que c'est pas évident. Comment on fait pour s'arrêter ? On a besoin d'avoir ton mari. Alors, du coup, ça va être peut-être un peu compliqué de se le partager.
Non, j'ai vraiment eu besoin d'accepter de demander de l'aide. Parce qu'en fait, seule, je me vois faire rapidement en me croyant toute puissante, même si je fais des erreurs, et en croyant que je suis suffisante, que je vais y arriver. et que je vois les besoins et que je vois le sport à mettre à l'hôpital. Je vois bien que moi, que quand je t'entends courir, je dis mais moi j'ai l'impression de courir toute la journée. J'ai pas encore courir.
Exactement. Alors on peut marcher avec Sophie, ça qui est bien, voilà. Il y a une alternative.
Donc, je trouve des solutions, je me suis mis une pièce, enfin je m'oblige, et c'est mon frère en plus qui m'a dit, mais il n'y a pas de pièce chez toi pour prendre soin de toi. Tout le monde a sa propre chambre et toi, tu n'as pas un endroit pour toi. Et en fait c'est vrai, j'ai pris beaucoup de temps, c'est des tout petits trucs qui, bout à bout, et le regard des autres, et accepter que l'autre vienne nous taper sur l'épaule et avoir du monde qui, quelque part, nous habitue à prendre soin de nous. En prenant soin de nous, on se rend compte qu'on pourrait commencer à faire mieux. Voilà, je n'ai pas de recette parce que je pense que je suis en traitement.
Non, mais c'est intéressant, ça veut dire en vous écoutant que, en fait, vous prenez soin des autres, mais c'est pas un réflexe de prendre soin de soi quand on veut prendre soin des autres.
En tout cas, moi, ça ne l'a pas été.
Ça ne l'a pas été jusqu'à présent.
Je m'astreins à faire attention à ne pas dépasser les limites, ouais. Et surtout à prendre soin de moi. Et parfois, je prends soin de moi un peu trop tard. Voilà. Donc, j'essaye de faire attention.
Marie, comment on fait pour prendre soin de soi? Parce que là, vous êtes embarquée dans un truc, vous êtes passée d'un système plutôt sympa.
Voilà, avec beaucoup de créativité, beaucoup d'événements.
Depuis des mariages, des trucs un peu sympas. Des soirées à Lyon People, tout ça.
Oui. Incroyable. Rien à voir.
Des chignons, des trucs comme ça. Hein.
Et ben oui. Ça, c'est sûr que la créativité, c'est incroyable. C'est magnifique, ça fait du bien. Et c'est vrai que ça sauve un peu dans le niveau du moral. Donc là, c'est vrai que moi, ma partie à moi, elle est pas drôle. Parce que quand on est au fait accompli et qu'il va falloir raser les cheveux, effectivement, là, il faut que j'encaisse déjà tout ce qui se passe au niveau de la personne quand elle va se regarder, au niveau de son image, l'effet miroir, il va être conséquent. Donc moi, je me préserve de l'émotion déjà des gens qui sont en accompagnant avec ces personnes-là, parce que l'accompagnant, justement, quand elles viennent accompagnées d'époux, d'enfants, de mari, de tout ça, l'accompagnant, il prend ça aussi en pleine face, si je puis dire. Et donc là, j'essaye de faire très attention à ne pas prendre ça pour moi personnellement, et je garde mon sang-froid. Donc c'est sûr que quand je rase ou que je coupe, j'enlève tous les cheveux, je ne me mets pas face au miroir, déjà. Je travaille en face d'une fenêtre et puis allez, on y va. La cliente est prête, donc elle a eu elle a eu le temps d'y penser pendant une semaine, donc ça y est, le moment est là. Donc j'enlève tous les cheveux devant la fenêtre, comme ça, moi je reste très concentrée sur ce que je suis en train de réaliser. Je me préserve de cette émotion-là. L'accompagnant, j'en fais pas. Je m'occupe que de ma cliente.
Ouais.
Je fais abstraction. Je m'occupe que de ma cliente. Et ensuite, quand elle va se découvrir, eh bien voilà, c'est une renaissance parce que c'est la deuxième fois. Si c'est son premier cancer, c'est la deuxième fois qu'elle va voir son cuir chevelu ou qu'elle va le ressentir. Parce que quand on vient au monde, on vient au monde sans cheveux. Donc voilà, j'essaye justement d'amener des choses délicates pour être vraiment dans le maximum de la bienveillance. Et puis après, il y a la prothèse capillaire qui est là et qui apporte.
Puis vous les laissez un petit peu, c'est ça, quelques minutes pour être toute seule.
Mais moi, ces quelques minutes me permettent de me préserver aussi.
Ah non, c'est ce que j'allais vous demander. Parce que quand on rentre chez soi le soir, avec tout ça là.
C'est ça. Eh bien, moi, Sophie va être fière de moi parce que moi, je fais du sport. Et
bravo. Alors, on va se lever pour Marie, bravo. Non, donc, vous ne faites pas la recette du verre de vin, on a compris, il y a deux équipes.
Depuis 6 mois. Non, mais en fait, moi, j'ai le luxe. Je me paye quelque chose d'incroyable, c'est que j'ai pris un coach très sympa qui a compris que j'avais besoin de vider un peu mon sac. Et il me fait faire de la boxe, du coup. Donc, le rapport, je n'ai pas compris, mais en tout cas, ça me fait du bien. Voilà, donc
il faut une échappatoire quand même, hein, chacune.
Ouais, ça fait du bien, et peut-être que je ne sais pas sur qui je frappe, je fais des super droites, mais ça doit être la maladie ou le fait que je ne peux pas faire mieux que ce que je fais. Je fais mon maximum pour être à la hauteur de mes conseils, mais maintenant. Après, moi, le coach me fait du bien. Et la créativité, je pense que c'est important dans mon métier quand même, dans mes vraies valeurs.
Et alors, qu'est-ce qui a été difficile les unes les autres dans les projets? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez dû surmonter? Parce qu'une fois qu'on se dit, OK, je m'engage dans telle voie, j'ai envie de faire ça, j'ai envie d'aider, j'ai envie de continuer, est-ce que vous avez dû surmonter des freins particuliers? Je ne sais pas, vous changez un petit peu de secteur d'activité, vous faites quelque chose de différent. Est-ce que vous avez eu le syndrome de l'imposteur, de se dire, bah, finalement, je ne sais pas, aujourd'hui, je suis infirmière, et demain, je vais être directrice. Est-ce que je suis légitime pour faire ça? Est-ce que ça a été des difficultés financières? Est-ce que c'est l'entourage qui vous a dit, mais qu'est-ce que tu fais, n'importe quoi, il faut passer à autre chose, je sais pas, j'en sais rien, je vous pose la question. Vous voyez, qu'est-ce qui pour vous a été difficile à surmonter et comment vous l'avez surmonté? Est-ce que vous avez des exemples à nous partager?
Ouais, je vais partager un truc assez personnel, parce que forcément tu viens nous chercher là-dessus, mais ça me va bien. Moi je suis à cette période-là, où ça fait 11 ans que je suis directrice des soins et des parcours, et donc j'ai cette responsabilité, ces galons sur les épaules, et je sais ce que je représente, d'ailleurs mon nom est marqué comme ça, c'est pour ça que je suis invitée aussi. Et je sens que je suis à une étape de ma carrière où il faut que j'apprenne, pour pouvoir être plus efficace pour après, pour vraiment aller changer les choses en profondeur, il faut que j'accepte de lâcher ce qui fait de moi aujourd'hui ce qu'on reconnaît. Et là, c'est le mois de changement où je lâche cette responsabilité-là pour passer à autre chose. Et je pense que la difficulté, c'est le regard des autres sur ce que je fais et de ce fait ce que je suis pour eux dans le repère sociétal. Et quand je vais vers autre chose qui n'est pas très définie, bah, c'est la peur que je renvoie, ou le regard des autres qui nous disent « Mais t'es sûre de ce que tu veux faire ? Mais c'est quand même super bien déjà, t'as un salaire, t'as un poste, t'as un truc. » Et quand tu sens que tu vas aller faire un truc qui a de l'engagement ou qui est puissant pour toi, mais il y a un moment de vide, et le vide, c'est hyper dur de lâcher.
On a l'impression de se jeter dans le vide.
Voilà, mais se jeter dans le vide, je sens que c'est juste un parachute, mais il y a ce petit moment de... Et que cette confiance à l'intérieur qui dit « c'est bon, c'est juste, ça va, ouais. Je pense que tu es... » Oh, ça va.
C'est ça.
Et ce vide, il laisse la place à la vie et à l'inspiration. Au temps de respirer, au temps de vraiment être en cohérence avec ce qu'on veut vraiment être. Et ça, ça va vraiment être puissant. Et ça va nous rendre puissants. Mais accepter de lâcher, ce qui rassure, ces fameuses peurs avec lesquelles, pour finir, on est très confortable, cette routine qui nous fait chier, mais sur laquelle on peut râler au moins, et bah, partir sur autre chose, bah, ça fait super peur. Et en même temps, je te remercie parce que tu l'as fait, parce que tu le fais, et je me dis, bah, peut-être que je suis capable de le faire.
Mais bien sûr, exactement. Et les lionnes sont là pour l'accompagner, donc c'est ça qui est chouette, de le partager. Merci de le partager avec nous. Et c'est vrai que c'est important de le partager, parce qu'en fait, il y a une grande solitude aussi quand on fait ce genre de virage. Et tu l'as illustré, c'est beaucoup plus facile de rester confortablement installé dans son quotidien, même si on le trouve chiant, des fois. Mais c'est vrai que ça veut dire que tout le monde le partage et tout le monde le ressent. Donc c'est aussi une forme de communion de savoir que les autres le vivent et qu'on n'est pas tout seul à le vivre. C'est vrai.
C'est l'équipe.
Exactement.
C'est ça que tu fais en nous réunissant.
Exactement.
C'est ça, sentir l'équipe, qu'on est. Ben voilà, c'est la puissance de la communauté.
Oui, c'est ça, exactement. Sophie, c'était quoi les difficultés quoi, que tu as peut-être partagées avec nous sur Courir pour elle?
Je voulais surtout revenir par rapport à ce qu'a dit Marie tout à l'heure, cette difficulté de la. Enfin, c'est pas l'annonce, c'est après, c'est vos cheveux vont tomber, puis je vais les couper. Ça te laisse quand même l'opportunité de rencontrer des pépites. Et moi, je les rencontre aussi, puisqu'en fait, nous, on n'est pas dans le soin, on fait de la prévention. Donc, on fait de la prévention auprès des personnes qui sont en train d'avoir qui sont en traitement, en chimiothérapie. Et il y a d'autres qui repartent, par exemple, à leur chimio ou radiothérapie. Et on les rencontre, puisque certaines disent, OK, bah, je vais proposer mon visage pour faire des campagnes. Et ces personnes-là, en fait, elles ont eu cette espèce de tsunami qui leur est tombé dessus. Elles ont connaissance de la vraie valeur des choses et ça reste. Alors, on parle de pépites, on parle de femmes extraordinaires et c'est une vraie belle opportunité. Et moi, souvent, je me dis dans ma journée, ben, j'ai eu un appel d'une qui m'a remercié en me disant l'activité physique que tu finances au Medipôle ou au Centre Bérard. J'ai plein de copines maintenant et j'adore ça. Il y en a même une qui m'a dit, puisqu'on avait été voir, on avait été reçus à l'époque, ça remonte un petit peu à. Avec, comment on appelle ça, au palais de l'Élysée, puisque on avait été valorisés. J'étais avec une des personnes en soins, elle m'avait dit « Merci mon cancer, parce que j'ai vécu un truc de dingue avec toi et c'était extraordinaire. » Et souvent, mais quelquefois, elles disent « Grâce à mon cancer, ben, j'ai pu rencontrer des personnes extraordinaires. Ça a changé ma vie. Je suis devenue meilleure. » Et donc, tu as cette chance, c'est difficile. C'est vraiment, t'es incroyable.
Sophie,
t'es
quand même une championne du contournement de l'obstacle, mais quand même, je vais te reposer la question, parce que là, tu sais que moi, ça fait 25 ans que je suis avec des hommes politiques, donc faire une réponse, c'est-à-dire, je conseille moi-même à mes clients, ne répondez pas à la question. Quand le journaliste vous la pose, répondez ce que vous avez envie de répondre. Mais toi, personnellement, qu'est-ce qui a été le plus compliqué? Parce que mettre en place Courir pour elle, il y a des difficultés. Qu'est-ce qui était le plus dur? C'était de convaincre les soignants ou le monde médical? C'était d'aller chercher des financements? C'est de construire le volet associatif? Parce qu'on fait appel, il y a des bénévoles, il y a des gens, des salariés, mais c'est des mondes qui
c'est quelque chose de très contradictoire. C'est qu'on peut le dire avec, je le dis, beaucoup de modestie. Hein. C'est grâce à mon équipe et un travail énorme pendant 15 ans. On est la plus grande course caritative de France. Oui. On a soutenu 9 500 dames en soins à hauteur de 3 150 000. Ce qui est difficile, c'est le manque de considération.
Ah oui?
Parce que par exemple, quand moi je remplis une fiche, je mets présidente d'association, mais ça, en fait, ça et on m'a même posé, parce que j'ai récemment loué un appartement. Donc, il y a une jeune femme de moins de 20 ans qui m'a demandé si j'avais une fiche de paye et si j'étais salariée. Parce que je lui ai dit, je suis présidente, fondatrice d'une association. Et vraiment, elle a remis en question mon rôle dans la société. Alors, je lui ai pas dit, va te renseigner, mais...
Oui, c'est ça.
Mais j'ai trouvé ça, voilà. En fait, c'est le manque de considération de ce monde associatif. Et je le dis vraiment haut et fort parce que ça concerne beaucoup de femmes, hein, beaucoup de jeunes femmes qui sont dans l'association et dans l'associatif. C'est ce manque de considération alors qu'on est un monde économique parallèle, qu'on fait des choses extraordinaires. Alors, je ne parle pas que de Courir pour elle, je parle des associations de patients, etc.
Oui.
Voilà, c'est être capable de se dire, OK, je suis certaine de ce que je fais. Alors moi, je suis convaincue qu'on fait beaucoup de bien et d'ailleurs, elles me le rendent beaucoup. Et ils me le rendent beaucoup parce que récemment, on a fait quelque chose d'extraordinaire. On a demandé, on a fait un after work au Sofitel. Je peux citer, je ne fais pas de la pub. Hein. Et puis, il y avait dans la salle deux hommes qui ont accepté de témoigner, dont un qui avait un cancer du sein. Il a découvert son cancer du sein avec un stade avancé. Donc, ils ont tous les deux témoigné, cancer du poumon, cancer du sein. Et c'était rempli d'émotions et c'était extraordinaire. Et donc, certes, c'est compliqué, mais on a beaucoup de reconnaissance et quelque part, ça fait une jolie balance.
Christelle, qu'est-ce qui a été compliqué pour toi? Qu'est-ce que tu peux nous partager?
En fait, c'est toujours compliqué. Hein.
C'est toujours compliqué.
Je veux dire, il faut aller chercher des fonds, il faut aller chercher des partenaires, il faut vendre les places. Ça, c'est difficile. Hein. Je ne sais pas s'il y a des commerciaux dans la salle, mais voilà, en plus, c'est un éternel recommencement. Et puis, il faut reconnaître que moi, je suis dans un sujet qui n'est pas ultra glamour non plus. Mmh. Que Alzheimer, les gens... moi, j'ai eu des gens en dédicace qui faisaient un carré autour de moi pour ne pas s'approcher, quoi. Je dis, mais vous savez, on peut en parler. Voilà, c'est... Oui. Puis, il y a des moments, c'est relou. Franchement, c'est un sujet... des fois, j'en ai marre. Non, mais vraiment, enfin, je le dis parfois, voilà, le lendemain, ça va mieux. Mais il y a des moments... voilà, tout le monde a des histoires avec ça. Donc, moi, je suis devenue un peu Miss Alzheimer. Donc, c'est vrai que parfois, on vient me raconter. Alors, j'ai droit à toutes les anecdotes du grand-père qui était comme ci, puis de la grand-mère. Donc, oui, des fois, il y a des difficultés. Des fois, j'en ai un peu marre. Ouais. Donc, je me mets chez moi. C'est mon canapé. Mon verre.
Allez, on est d'accord. On est d'accord, Christelle.
Non, mais j'en fais plaisanterie, mais des fois, c'est vrai que c'est lourd.
Oui, il y a des moments de découragement.
Il y a des moments de découragement. Et puis, il faut retourner au turbin, puis il faut y aller parce qu'on a des gens derrière qu'on donnait, on a des partenaires, on a des... il y a des gens que je saoule aussi, que je dois parfois presque violer pour leur faire acheter des places ou me donner des... Voilà, donc il faut les remotiver, il faut les remobiliser, parfois pour une cause, si on fait rien... Enfin, il faut quand même savoir que le nombre de malades double tous les 20 ans. Voilà. Et aujourd'hui, on a zéro traitement. Zéro. On guérit, je crois, d'un cancer sur deux, non? Vous avez peut-être bientôt un cancer sur deux. Aujourd'hui, on a zéro traitement contre Alzheimer. Donc aujourd'hui, on est nous, la génération qui pouvons mettre Alzheimer KO. Donc on a intérêt à se mobiliser. Il n'y a pas une famille aujourd'hui qui n'est pas touchée. Enfin, très rarement, tout le monde a maintenant une expérience de près ou de loin avec cette maladie. Et il faut absolument que la recherche avance. Voilà. Et qu'on reconnaisse... Alors, on parle de manque de reconnaissance. Je vais parler aussi du manque de reconnaissance du statut de l'aidant.
Ah oui.
Parce que lui, par contre, ce statut-là, il est absolument terrible.
Il est inexistant.
C'est absolument pas reconnu. Et malheureusement, quand ça nous tombe sur le coin du nez, on n'a pas d'autre choix que d'endosser ce rôle-là.
Oui, voilà. C'est ça. Et la vie s'arrête. Enfin, on est obligé. Toute la vie est transformée.
Toute la vie s'arrête. L'avenir qu'on projetait est pulvérisé. Et le quotidien est complètement chamboulé avec les difficultés financières, les difficultés. Enfin voilà. Je vais pas vous refaire le tableau, mais il y a vraiment un vrai enjeu sociétal de reconnaître ce rôle-là. Et pas que dans l'Alzheimer, d'ailleurs.
Non, bien sûr.
Dans toutes les formes, parce qu'il y a quand même une universalité aussi de l'aidant pour tout ce qui est handicap ou choses comme ça. Voilà, moi, j'ai une cousine qui a un petit garçon qui est lourdement handicapé, moteur, cerveau, enfin, qui est épouvantable. Mais on a retrouvé vraiment des choses communes dans nos parcours et des similitudes qui sont tout à fait symboliques.
Alors, est-ce que, en petit mot de conclusion, vous voulez chacune nous partager pourquoi il est important, selon vous, quand même, de s'engager? Et surtout, est-ce que c'est accessible à tout le monde ou est-ce que ça nécessite des super pouvoirs de super héroïnes que vous êtes toutes les quatre? Parce que, franchement, je pense que, au nom de toute la salle, on va vous tirer un immense chapeau sur tous les engagements et toutes les actions que vous pilotez. Mais est-ce que c'est accessible à tout le monde de s'engager comme ça, à ce point-là, pour les autres?
Moi, je réponds très simplement. Je crois surtout qu'en fait, il faut faire avec ce qu'on a. C'est-à-dire que si on a... C'est pas une obligation non plus. Voilà, c'est... moi, je le fais. Mon frère a partagé la même vie que moi. Il est pas du tout concerné de la même manière. Lui, il en a vraiment fait autre chose. Il a vécu la maladie autrement. Et aujourd'hui, ça fait pas partie de sa vie. Alors, il est très content. Il dit bravo, etc. Mais... Il faut faire comme on a envie et comme on le sent aussi. C'est pas une obligation. Par contre, on peut prendre une adhésion à une association. Si on le sent, on peut donner de son temps. Nous, on est à la recherche de bénévoles. Venez si vous avez envie de partager, de monter dans le bateau avec nous. Mais après, ça peut être simplement une petite adhésion de 25 euros pour adhérer à l'association. Et ça nous aidera déjà beaucoup. Mmh. Voilà. Seulement, faut juste donner à la hauteur de ses moyens. Et faire comme on peut, voilà, tout simplement.
Merci.
Je préfère Christelle. Pas juger, en fait.
Oui, oui, bien sûr. Merci, Christelle. Sophie, petit mot. Et là, ta carte blanche, t'es là.
Moi, la conclusion, c'est qu'en effet, on fait tous comme on peut. C'est pas évident. Après, encore une fois, ce passage, il est court et. Et ça fait du bien de se dire, tiens, pendant que j'étais là, j'ai fait ça pour elle. Alors ça, c'est pour moi. Enfin, je parle pour moi. Je suis assez fière en fait de me dire. Et puis il y a une histoire d'exemplarité. J'ai trois enfants. Je les ai mis au scoutisme. J'ai malheureusement pas fait du scoutisme moi-même. Et j'ai déboulé dans le monde du bénévolat comme ça, un peu tardivement. J'ai trouvé ça extraordinairement riche, enrichissant, nourrissant. J'ai trouvé ce monde, vertueux, à tel point que j'espère que j'aspire mes enfants à leur tour donner. Et surtout, ce qui est important dans notre société, c'est être solidaire. Je trouve que cette espèce d'atmosphère nombriliste et repliée sur soi-même, qui est pour moi vraiment le post-confinement, où chacun regarde son petit bobo, sans parler des gros bobos. Je pense que c'est important d'être solidaire, de jouer collectif. Alors moi, j'ai beaucoup de références au rugby parce que je trouve que c'est exemplaire. Puis on a beaucoup parlé du rugby récemment, où ils nous ont montré que quand on est ensemble, la phrase c'est « je cours plus vite toute seule, mais je vais plus loin ensemble », c'est factuel, c'est la vérité. Donc inspirons-nous du sport. Et puis maintenant que tu as lancé le petit « comment vous pouvez nous aider ?», moi je vais vous dire, on a toujours des idées à courir pour elle. Et on va faire un petit pied de nez à Black Friday, parce que vous avez dû recevoir sur vos smartphones des espèces d'offres à la con, je peux le dire, pour dépenser et gaspiller. Et donc, nous, on s'est dit... alors, il y a un mouvement américain. Après le Black Friday, ils se sont dit, bah, tiens, on va faire le Giving Tuesday. C'est le fameux mardi après le Black Friday, qui est la journée de la générosité. C'est le 3 décembre. Et donc, nous, on s'est dit, bon, on va faire un dossard solidaire, un dossard qui met du sens. D'abord, vous pouvez l'offrir à un homme et une femme. Et ce dossard, bah, il va aider une femme en soins, puisque le slogan de Courir pour Elle, c'est un dossard acheté, une femme aidée. Un dossard vendu, une femme soutenue. Donc vous pouvez tout à fait acheter un dossard en suivant ce petit QR code, si vous voulez, tout à l'heure, et vous arriverez sur un site. Voilà, c'est tout simple.
C'est la championne, Sophie. Hein. Et alors, je rappelle quand même que l'équipe d'Eliane vient chaque année.
Absolument.
Et on fait une équipe pour courir pour elle. Et donc, nous avons donc deux équipes, une équipe qui court et une équipe qui marche. Je dis tout à fait, parce que moi, je fais partie de cette deuxième équipe, vous l'aurez compris.
Avec ta maman.
Avec ma maman, bien sûr, mais avec plein de gens qui sont ici. Et donc, voilà, on va marcher, on va courir. On s'entraîne avant. Et donc, normalement, c'est Emmanuel Tamissier, une de nos membres de notre commission exécutive, qui s'occupe de ça. Donc, on va reprendre les entraînements à partir de janvier sur le sujet. On voulait faire un stand, Sophie. Ouais, tout à fait. On te le dit, on va faire un stand le jour de la course de courir pour elle, si on est d'accord.
Comme vous êtes venu ce soir et que vous êtes méritant, et puis que vous allez bientôt vous lever pour une dernière fois. Je vais vous donner un scoop. À force de nous dire pourquoi les hommes ils n'ont pas le droit de courir et pourquoi Sophie tu fais que courir pour elle, eh bien la petite anecdote, c'est qu'en fait, comme moi j'ai fait beaucoup de marathons, je me suis dit pourquoi les femmes elles n'ont pas pu courir un marathon avant 1967 alors que les hommes ils ont couru des marathons depuis la nuit des temps. Donc c'était une espèce de pied de nez. Et à force d'entendre les hommes dire ben moi j'aimerais bien courir pour elle, j'aimerais bien être là, cette année en 2025, on étale sur 3 jours notre événement du 18 mai. Donc le dimanche c'est entre elles, c'est elles courent entre elles parce qu'elles aiment bien être entre elles. Et il y a beaucoup de pudeur, il y a beaucoup de sororité, voilà, mais surtout de la pudeur parce que celles qui ont été abîmées, ben, elles n'ont pas envie qu'il y ait des garçons qui se moquent ou qui soient un petit peu pof pof pof, voilà. Les garçons ils se moquent parfois. Le samedi, ce sera il et elle courent pour elle, donc en famille, garçons, les papas, les garçons et les mamans ensemble, donc la famille. Et le vendredi, ça sera la version entreprise corporate. Et ça va nous aider à faire quelque chose d'intéressant, c'est de détaler, parce qu'il y avait beaucoup trop de monde l'année dernière et ça a été, il y avait des embouteillages. Donc on parle plus d'embouteillage, on fractionne et comme ça vous pourrez venir encore plus nombreux. Et comme ça on pourra encore plus aider le centre Lambert-Rard et les dames en soins.
Donc on sera au rendez-vous évidemment. Christelle, le petit mot de conclusion.
Je réfléchissais, en vous entendant, j'ai dit, s'engager, est-ce que c'est possible pour tout le monde ? Je pense que ça dépend des moments de la vie, ça dépend de ce qui nous a touchés, ça dépend aussi d'autres personnes qui nous inspirent à nous engager. Et je suis contente de vous entendre parce que vous m'inspirez à m'engager et j'espère être quelqu'un qui inspire à s'engager. Parce que je crois que c'est des petites lumières qui se mettent les bouts au bout et puis c'est des petits fils qui se font les uns aux autres et que ça fait du bien de sentir qu'il y a cette solidarité. Et que c'est vrai que j'étais très touchée par les Jeux Olympiques et je me suis dit, ça devrait continuer un peu parce que ces Jeux Olympiques nous ont engagés avec eux et de fait, c'est un rythme et un cœur qui bat. Donc je pense que l'engagement, c'est comme... quand on habitue notre cœur à battre et à ressentir sur quoi on a envie d'aller. Effectivement, je n'arriverai pas à juger non plus, mais à dire, il y a des moments où je suis fatiguée de m'engager, donc je vais faire canapé team. Et il y a des jours où je vais m'engager, mais comme une dingue, et je vais fatiguer tout le monde. Et puis, c'est tout, il y a des moments... Le compagnonnage dans l'engagement me semble vital.
Merci, Christelle. Marie, ce petit mot de conclusion.
Alors, le petit mot de conclusion, c'est vrai que moi, en tant que formatrice, eh bien, c'est vrai que ma responsabilité, c'est quand même de transmettre mon métier. Et donc, cette partie-là aussi en fait partie. Donc, j'en parle à mes élèves et ils sont vraiment à l'écoute. Je pense que vraiment, le domaine de la coiffure, c'est quelque chose qui va devoir vraiment se mettre dans cet état d'esprit aussi. Et ils sont vraiment à l'écoute vis-à-vis de tout ça. Donc, je transmets déjà mon expérience, mes conseils, enfin voilà, tout ce que je peux apporter aux élèves. Ce qui m'encourage à continuer et à persévérer, c'est vraiment tous ces témoignages que je reçois. C'est impressionnant. Comme je disais tout à l'heure, Sophie, c'est impressionnant les témoignages et la force qu'elles apportent. Elles nous apportent beaucoup, beaucoup de force. C'est fou. Les textos, les messages, ça y est, je suis en rémission, ça y est, ça va, ça le fait, ça, tout va bien, ça fait du bien. Donc ça encourage et on continue.
Voilà. Très bien, bah écoutez, je voulais qu'on remercie avec un tonnerre d'applaudissements nos intervenantes.